Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je m'attaque à un gros morceau. Tellement gros qu'il me faudra deux épisodes pour vous raconter cette histoire, et même trois. L'affaire Émile Louis, l'un des plus grands tueurs en série français. Il a tué au moins sept jeunes filles handicapées mentales, celles qu'on avait appelées à l'époque avant sa condamnation, les disparues de Lyon. Voici donc le premier épisode, vous trouverez ensuite le second, et dans un troisième temps, le troisième épisode, qui sera un point de vue décalé sur ce drame, celui de sa fille Marilyn, qui raconte ce que c'était que d'être la fille d'Émile Louis. J'écris ce premier épisode avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je vous préviens, le début de cette histoire est désolant. Et plus de 40 ans après, ça reste une tache dans notre histoire. Une grosse tache bien dégueulasse. Un moment de honte nationale. À la fin des années 70, entre 1977 et 1979 précisément, deux gens, des branleurs, des gens foutres, des gros nazes, responsables d'un institut médico-éducatif d'Auxerre, voient disparaître une par une des jeunes filles handicapées mentales dont ils ont la charge. Eh bien, ils ne bougent pas le petit doigt. Des gamines dont pourtant ils sont censés s'occuper, qu'ils sont censés protéger. Hé, Robert, il y a la petite Marlowe qui s'est pas présentée aujourd'hui. Ah bon? Eh ben, écoute, t'as qu'à écrire qu'elle est en fugue sur sa fiche, puis voilà tout. Salut. Dis, on a pas de nouvelles, la petite Chantal Graal. Ah bon? Ben, t'as qu'à écrire sur sa fiche qu'elle est en fugue, et puis voilà tout. Salut, chef. Dis donc, il y a Madeleine de Juste qui s'est pas présentée ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? T'as qu'à écrire sur sa fiche qu'elle est en fugue. Et puis voilà tout. Et voilà. Fermez le banc. C'était des gogoles, ces gamines. Et qui plus est, des enfants de la DAS. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à se demander ce qu'elles sont devenues? Elles ont fugué. Voilà tout. Fugué? Vous êtes sûr? À ce stade de l'histoire, on compte quatre disparus. Christine Marlowe avait 15 ans, Chantal Gras 18, Madeleine de Juste avait 21 ans et Bernadette Lemoine 19. Toutes les quatre ont le même profil. Elles sont handicapées mentales. Elles ont été abandonnées par leur famille ou retirées à leur famille par un juge pour enfants. Elles étaient toutes hébergées en famille d'accueil et elles passaient toute leur journée à l'IME avant de rentrer le soir à la maison. On venait les chercher en quart et on les ramenait en quart tous les jours. Et elles auraient fugué? Pourquoi? Comment? Fugué où? Personne ne se pose la question. Personne ne les cherche. Ni la direction de l'Institut médico-éducatif Gratterie d'Auxerre, ni les services de la DAS de Lyon. Les seuls qui s'inquiètent de leur disparition, ce sont les familles d'accueil. L'une d'elles publie même un avis de recherche dans le journal local, Lyon Républicaine. Si quelqu'un la retient, il est prié de lui laisser écrire une lettre de sa propre main pour que l'on sache qu'elle est toujours en vie. L'appel reste sans réponse. Et les années passent. En 1984, 7 ans plus tard, le procureur ordonne bien une enquête préliminaire qu'il confie aux gendarmes. Et les gendarmes concluent dans un rapport que oui, ces soi-disant fugues ont un point commun. Ces gamines ont disparu entre le centre et leur famille d'accueil. Toutes. Les gendarmes écrivent qu'il y a sans doute quelque chose à gratter de ce côté-là, dans ce trajet entre le domicile et l'institut. Mais le procureur, un jean-foutre lui aussi, classe le dossier sans suite. Circulez, il n'y a rien à voir. Ce sont des gogoles, je vous dis. Des gogoles. Et les années passent encore. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans, huit ans, neuf ans, 10 ans. Christine, Chantal, Bernadette et Madeleine sont tombées dans l'oubli. Personne ne se souvient d'elles. Ni d'ailleurs de leur nom, ni de leur prénom, ni de la date à laquelle elles ont disparu. Et ça dure comme ça jusqu'en 1994. 16 ans après, enfin, un homme sauve l'honneur. Il était temps. Il s'appelle Pierre Monnoir. Il n'a aucun rapport avec les gamines disparues. Aucun. Il a juste un frère handicapé, ce qui lui donne une sensibilité sur le sujet. Et il a entendu parler de ces gamines handicapées mentales volatilisées. Mais à part ça, il ne sait rien. Ni leur nom, ni quand elles ont disparu. Alors il va voir le directeur de l'IME, l'Institut médico-éducatif en question. Pas le même Jean Foudre qu'à l'époque, hein, un nouveau, qui manifestement n'est au courant de rien. Vous n'avez pas entendu parler de ces personnes disparues? Ben non. Ça date de quand? J'en sais rien. D'après ce que j'ai entendu, ça date des années 70, la fin des années 70. Ben non. Honnêtement, je suis pas au courant. Vous devriez fouiller dans les archives. Il y a un truc pas net sur ces disparitions. Et le directeur fouille dans ses archives et il tombe de sa chaise.
Monsieur Monnoir, c'est le directeur de l'IME Gratry, là, à l'appareil. Dites-moi, je me suis plongé dans les archives comme je vous l'avais promis. Vous aviez raison, hein. Il y a effectivement eu 4 disparitions coup sur coup en 1977 qui sont demeurées inexpliquées, hein.
Ah, je savais bien. Vous pouvez me donner des noms et les dates?
Pas de soucis, monsieur Monnoir. Je vous envoie ça tout de suite.
En attendant, Pierre Monnoir a créé une association de défense des handicapés de Lyon. Et dès qu'il reçoit les noms, il se lance, avec d'autres, dans un travail de fourmi. Il s'agit de retrouver les familles des disparus. Les parents, quand ils en avaient, ou alors un frère, une sœur, souvent placés aussi à la DAS. Moi, j'ai jamais su qu'elle était placée, ma sœur. Je savais pas non plus qu'elle avait disparu. Comment que vous voulez que je le sache? Et comme ça, petit à petit, Pierre Monnoir parvient à mobiliser les 4 familles des 4 jeunes filles disparues fin 77. Il s'agit de porter plainte en tant que partie civile. Et Monnoir a trouvé un avocat, vieux briscard du barreau de Paris, qui carbure au whisky dès le petit déjeuner, mais qui est un retors comme il faut, Maître Gonzalez de Gaspard.
Je veux bien vous aider, mais c'est pas gagné, hein, je préfère vous le dire. Tant d'années après, il va falloir se battre pour obtenir l'ouverture d'une instruction.
Il a raison, Gonzalez de Gaspard. C'est pas joué. Alors, pour secouer la justice, Monnoir décide de se tourner vers la presse. Mais les journalistes locaux de Lyon ne croient pas vraiment à son histoire. Qu'importe. Début 1995, il va voir l'équipe de l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel sur TF1. Et il tombe sur un putain de journaliste à qui cette histoire doit beaucoup. Stéphane Minca.
Écoutez, monsieur Monnoir, je vous promets d'aller voir sur place, hein, de mener une enquête. Et je vous tiens au courant.
Et il va sur place, à Auxerre. Et il découvre d'abord que ces gamines qui avaient 15, 18, 19 et 21 ans étaient bien incapables de fuguer.
Elle avait 7 ans d'âge mental, Christine. Comment voulez-vous qu'elle ait fugué? Elle n'aurait même pas eu l'idée, enfin, 7 ans d'âge mental.
Et les autres, pareil. Et il retrouve aussi la sœur de Madeleine de Juste, disparue en 1977, à l'âge de 21 ans.
Oh, ben, j'ai passé des annonces dans le journal, à l'époque, pour savoir où c'est qu'elle était passée, Madeleine. Oh, la DAS, on m'a dit qu'elle était majeure et qu'elle avait le droit de partir où qu'elle voulait. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'elle avait été enlevée, quoi, hein. Qu'elle était prisonnière quelque part.
Et Stéphane Minca s'entend dire aussi que la dernière fois qu'on a vu Madeleine vivante, elle allait prendre le car pour aller à l'IME. Le car. Souvenez-vous de ça. Le journaliste de Perdu de vue rencontre aussi la nourrice de Chantal Gras.
Oh, ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, que le soir où elle a disparu, elle venait de rentrer à la maison. Elle a posé son cartable, je me souviens. Et puis, elle est ressortie, se promenait, comme elle faisait souvent. Et, ben, ce jour-là, je l'ai jamais revue.
Et après, Stéphane Minca va voir la mère biologique de la même Chantal Gras.
Oh ben, quand elle a disparu, ça m'a pas trop étonné, parce que figurez-vous qu'un jour, le chauffeur du car qui les amenait tous les jours à l'IME, il m'a dit, vous verrez un jour votre fille, quand elle aura 18 ans, elle partira. Il m'a dit ça, chauffeur de car. C'est pour ça, j'étais pas trop étonné.
Il vous a dit ça? Mais c'est qui ce chauffeur de car?
Émile. Émile Loué qui s'appelle. Ben, c'est lui qui amène les gosses des familles d'accueil où qu'elles vivent. Jusqu'à leur école, jusqu'à l'IME.
Décidément, il y a un problème avec le car scolaire dans cette affaire. Un problème avec son chauffeur, cet Émile Louis, là. Stéphane Mincard appelle alors les gendarmes d'Auxerre.
Dites-moi, je m'intéresse à un certain Émile Louis, qui est un chauffeur de car des Rapides de Bourgogne. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose?
Ah oui. Oui, ça me dit quelque chose. C'est un gars qui a été condamné pour pédophilie, Émile Louis.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, vous aviez conduit une enquête à la demande du procureur de la République sur les disparus de l'IME d'Auxerre. Dans vos souvenirs, est-ce que le nom d'Émile Louis figurait dans le dossier?
Oula, c'est vieux tout ça. Mais oui, je crois bien.
Ce dossier d'enquête préliminaire, là, vous l'avez toujours? Vous accepteriez de me le lire?
Maintenant?
Oui, maintenant.
Faut que je le retrouve. Mais oui, d'accord, si vous voulez.
Et le gendarme lit le dossier à Stéphane Mincard de perdu de vue, au téléphone, pendant 1h30. Et il tombe de l'arbre, parce que Pierre Monnoir lui avait donné 4 noms de disparus. Mais en vérité, il y en a 7. Le gendarme lui en donne 3 de plus.
Alors, on a aussi Martine Renaud, 16 ans, qui a disparu à l'époque à peu près dans les mêmes conditions. Et puis Jacqueline Weiss, W-E-I-S, qui avait 18 ans. Et enfin Françoise Lemoine, 27 ans. C'est la sœur d'une autre disparue, Bernadette Lemoine.
Cette gamine handicapée mentale disparue dans les mêmes conditions, dans la même indifférence, et qui toutes faisaient le trajet domicile-école dans le même car scolaire, conduit par le même chauffeur, Émile Louis. Son nom est dans le dossier depuis le début. Il a fait du bon boulot, Stéphane Mincard. Du très bon boulot. Jacques Pradel a maintenant la matière pour ouvrir le dossier des disparus de Lyon dans son émission de TF1.
Un petit peu solennellement ce soir, je voudrais quand même dire à ceux qui nous regardent que nous sommes en mesure, après l'enquête que nous avons menée ici à Perdu de Vue, de confirmer en tout cas la réalité d'un certain nombre de ces disparitions.
Et Pierre Monnoir est là, sur le plateau. Et Pradel égrène le nom des disparus. Et Monnoir découvre en direct qu'il n'y en a pas 4, mais 7. En tout cas, ça y est, l'affaire est sortie de l'oubli, enfin. Presque 20 ans après. On a beaucoup critiqué à l'époque l'émission de Pradel Perdu de Vue. Mais elle a été très utile dans beaucoup d'enquêtes, dont celle-là.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.